amis, vous êtes sur RCJ, c'est l'invité politique du jeudi. Philippe Méchet reçoit Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron. Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Philippe Méchet, bonjour.
Bonjour Jonathan.
Je vous laisse le micro.
Eh bien bonjour à vous Benjamin Griveaux, vous êtes porte-parole d'Emmanuel Macron et vous êtes de la même génération que lui. Vous avez exercé des fonctions auprès de responsables politiques auparavant. Vous avez même été vice-président d'une communauté d'agglomération jusqu'en 2014 dans le Grand Chalon, je crois. Et également, vous êtes salarié du privé. Alors, si je dis tout ça, c'est pour préciser que vous avez une expérience à la fois du public, une expérience du privé, des fonctions électives. Alors, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'à 39 ans, dans une génération qui s'est souvent détournée de la politique, on a envie de s'engager ?
Alors, c'est vrai que je n'ai plus de mandat aujourd'hui, mais que j'en ai exercé. J'ai toujours, dans ma vie et dans mes choix de vie, décider d'avoir un revenu qui n'était pas dépendant de la politique, ce qui est sans doute le meilleur moyen d'être libre et de dire ce qu'on pense et de ne pas être tenu par un appareil, par des engagements ou par des vassalités à un responsable politique qui peut demain dire des choses auxquelles on ne croit plus et auxquelles on se sent lié financièrement. C'est ça, je crois, ce qui détermine aussi le parcours qui a été le mien, mais c'est le parcours d'une génération nouvelle qui est en train d'émerger en politique et qui considère que la politique n'est pas une profession, que les allers-retours entre le monde du privé, mais qui peut être dans l'entreprise, qui peut être dans le monde associatif, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et le monde politique sont des respirations absolument indispensables pour avoir probablement une approche des sujets un peu différente que de celle de nos aînés, disons-le comme ça, qui n'ont pas démontré, c'est un doux euphémisme, ces 30 dernières années, que quand on regarde l'état du pays aujourd'hui, eh bien, passer 30 ans élu dans un territoire était le meilleur moyen d'arriver à mettre en place des politiques publiques nouvelles et à se remettre en question. Donc, ce parcours, moi, je l'assume. Qu'est-ce qui fait que je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron ? Ce sont deux choses. Un, sur le fond et sur l'offre politique qu'il propose, très attaché à la liberté, qui n'en fait pas un codicille de l'égalité. Et je crois que c'est la démarche fondatrice chez lui, c'est de faire de la liberté une des conditions de l'égalité. Ça, c'est la première chose, donc une densité sur le fond. Et la seconde chose, c'est quelque chose d'assez rare, parfois, dans le monde politique, c'est le courage.
C'est un des rares, d'ailleurs, effectivement, comme vous le soulignez, à ne pas être un professionnel de la politique. Si je prends les autres grands candidats, finalement, que ce soit François Fillon, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, on est face à des professionnels de la politique. Donc vous dites, la nouveauté, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas fait que de la politique.
Je vais vous faire une confidence, Emmanuel Macron est le seul candidat qui a déjà travaillé.
Ah, bah, on remarque, la politique est un travail aussi.
Ouais, mais ça ne doit pas être une profession.
Si vous deviez résumer un peu les trois grandes idées-forces de ce que pourrait être une présidence Macron, vous diriez quoi ? Je vous pose la question parce que finalement, et on aura l'occasion d'en reparler, une des attaques sur Emmanuel Macron, c'est le programme. Et où est le programme ? Qu'est-ce que le programme ? On va en reparler. Alors je dirais, plutôt pour résumer, ce serait quoi ? Trois grandes idées fortes, ça peut être deux hein, d'ailleurs, ou quatre, d'une présidence Macron.
Je vais même essayer de vous en faire qu'une seule et puis après on pourra décliner. Mais la grande idée de départ, c'est de remettre de la mobilité dans ce pays. C'est de donner de la liberté à des gens qui aujourd'hui n'en ont pas. Qu'est-ce que, vous savez, on a, nous, engagé ce qu'on a appelé une grande marche, qui était une enquête auprès de centaines de milliers de Français entre le mois de mai et le mois de juillet dernier. Qu'est-ce que nous ont dit les Français ? Ils ont rempli des questionnaires, on en a 30 000, moi j'en ai lu plus de 2500. Et si je devais résumer en une phrase ce que les gens nous ont dit « nos vies sont empêchées ». C'est-à-dire que parce que vous êtes né dans un quartier, parce que vous n'avez pas le bon diplôme, parce que vous n'avez pas les bons réseaux, finalement votre vie est jouée à 25 ans et vous savez que pour les 30 ou les 40 années qui viennent, eh bien l'horizon est bouché. Et c'est ça qui est insupportable. On est dans un pays qui a cette double contradiction qui est que quand vous échouez, vous n'avez pas droit à une seconde chance. C'est le cas pour l'école. Quand vous marchez pas bien, on vous met rapidement dans une filière en disant « Ah, celui-là, il n'est pas fait pour faire des études ». C'est le cas quand vous montez une boîte et qu'il peut arriver que l'entreprise se porte moins bien, c'est très difficile par la suite de remonter une entreprise. Donc en gros, vous échouez, vous n'avez pas de seconde chance, et si vous réussissez, là vous êtes suspect. Et donc dans un pays qui ne permet pas l'échec et déteste le succès, eh bien vous avez des phénomènes de blocage de cette société française. Et donc toute l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de donner plus de liberté pour permettre à chacun de vivre sa vie. C'est aussi simple que cela. Et ça se décline dans plusieurs grands domaines. Les deux domaines fondamentaux qu'il a déjà longuement évoqués, c'est la question du travail et c'est la question de l'éducation. Parce que si on ne met pas à la fois plus de mobilité et une sécurité sur le travail, et en même temps des moyens beaucoup plus conséquent sur l'éducation, en particulier dans les zones dites sensibles. Si vous donnez le même nombre d'heures de cours de maths, je prends souvent cet exemple, dans les mêmes conditions à Henri IV et à Trappes, bizarrement, les gamins qui sont à Henri IV, ils vont mieux s'en tirer que ceux qui sont à Trappes. Et donc, il faut en terminer avec l'égalité, mettre plus de capitaux publics là où il y a moins de capitaux privés, assumer cela, c'est ça la vraie égalité, c'est finalement de permettre à chacun d'aller de courir le 100 mètres avec les mêmes paires de baskets. Tout le monde ne sera pas Usain Bolt à la fin des fins, mais tout le monde a les moyens de l'être. Et mais c'est ça finalement
ça met l'accent quand même sur ce que vous dites sur les inégalités. Par exemple, quand vous dites à Trappes ou à Henri IV, c'est vrai, alors pour en avoir parlé à un professeur d'Henri IV, en lui disant « Oui, mais Henri IV, on réserve les meilleurs enseignants pour les élèves », lui m'a répondu quelque chose qui est plutôt vérifiable d'ailleurs, c'est de dire « Non, la différence, c'est pas les enseignants. Les enseignants sont aussi bons ou aussi mauvais, comme on veut, à Trappes qu'à Henri IV, c'est les élèves. C'est les élèves par l'éducation, etc. » Où il disait « Moi, je pourrais avoir 40 étudiants, 40 élèves dans ma classe. En réalité, ils sont sages, etc. parce que c'est les élèves qui font la différence. » Ce qui veut dire que, par rapport à ce que vous nous dites, le problème, c'est quand même l'inégalité d'accès. Inégalité d'accès d'ailleurs qu'on peut étendre, hein. Vous dites à l'éducation, et là c'est probant, c'est vrai, inégalité d'accès aux soins, c'est des inégalités d'accès qui empêchent cette mobilité.
Ce sont des inégalités d'accès, et l'exemple que vous prenez est très juste, la proposition d'Emmanuel Macron de dire en classe de CP et en CE1, dans les zones REP et REP+, donc qui sont les zones prioritaires d'éducation, eh bien on va diviser le nombre d'élèves par classe par 2. Ils seront plus 25, ils seront 12, parce que vous ne faites pas classe à 25 à Trappes en classe de CP ou de CE1 avec des retards d'orthographe, des retards de vocabulaire. Un enfant qui est, je prends Trappes, ça s'applique à des quartiers sensibles,
oui, c'est parce
arrive
qu'il y a,
en CP, il a entendu en moyenne 3 millions de mots.
Parce
de
que Benoît Hamon est élu de Trappes, il ne faut pas que vous dites ça.
Sans doute ça. Un enfant qui arrive dans ces quartiers en CP a entendu 3 millions de mots de moins à 6 ans qu'un enfant issu des quartiers favorisés. Et donc vous les condamnez au départ. Si vous leur donnez les mêmes conditions d'enseignement et le même nombre d'élèves par classe, les enseignants ne peuvent pas s'en sortir. Après, j'ajouterais quand même quelque chose, c'est que quand on envoie des jeunes enseignants qui sortent de l'école, où on a un peu sacrifié la formation, y compris les méthodes pédagogiques pour enseigner à des gamins, et ben c'est pas forcément les plus jeunes qu'il faut envoyer au début dans les quartiers les plus compliqués. Donc c'est sans doute aussi des enseignants plus expérimentés qu'il faut d'ailleurs mieux rémunérer, parce que c'est une manière de faire la classe différente. C'est aussi l'idée de donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, parce que les enseignants, ils ont parfois besoin de sortir, non pas du programme et du tronc commun, mais des méthodes d'enseignement qui sont pas les mêmes forcément, quand vous avez 30 élèves très sages en 4 et des élèves non pas moins sages, mais en tout cas différents dans leur manière d'aborder l'autorité et l'école dans des quartiers plus sensibles.
Et ça, vous en avez parlé avec, par exemple, les syndicats d'enseignants pour commencer un peu à discuter, à voir si la population des enseignants serait ouverte à ce type de changement qui est une vraie révolution dans l'enseignement, c'est-à-dire de ceux qu'on va affecter dans des classes de 12 enfants et ceux qui auront beaucoup plus d'enfants finalement, mais...
Évidemment, les discussions avec les syndicats se font, et pas que sur l'enseignement, sur l'ensemble du sujet, sur le marché du travail, etc. Évidemment qu'il y a des syndicats qui sont un peu réticents à cela. Mais ce qu'on note quand même, c'est que vous avez une nouvelle génération d'enseignants qui est confrontée à cela au quotidien et qui expérimentent des choses nouvelles, qui expérimentent à l'extrême les classes inversées, qui expérimentent de nouvelles méthodes d'enseignement et qui aimeraient justement pouvoir voir reconnaître leur expérimentation par l'éducation nationale. Je pense au programme qui a été monté par exemple par l'ancien directeur de Sciences Po à Lille, Pierre Mathieu, qui a monté un programme formidable pour les gamins des quartiers qui concerne aujourd'hui 3000 gamins qui aujourd'hui sont à l'université, à Sciences Po, ont fait des études supérieurs alors qu'on leur a longtemps dit que ça n'était pas pour eux. Moi, j'ai en mémoire un témoignage terrifiant d'un gamin issu de ces quartiers dans le nord de la France et, qui a une mention très bien en baccalauréat et à qui on a dit « Mais toi, c'est le BTS en la direction, c'est pas l'université, simplement parce qu'il n'est pas du bon quartier. » Et ça, c'est insupportable. C'est à ça qu'il faut mettre un terme. C'est que l'égalité des opportunités doit être sur la table. C'est comme ça qu'on remettra de la mobilité dans un pays qui est bloqué depuis 30 ans.
On va parler un peu des programmes, du programme, puisque finalement, comme je vous disais, c'est aussi un des sujets qui apparaît. Alors c'est vrai que pour journalistes, commentateurs, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des catalogues de mesures auxquels on peut extraire deux, trois propositions sur lesquelles on va taper comme des sourds pendant quelques temps, parce que finalement c'est souvent ce qu'on retient des programmes, c'est les mesures sur lesquelles on tape comme des sourds. Alors il y en a qui font leur programme, Benoît Hamon, enfin son programme en tout cas qui a sa mesure phare, on a retenu que le revenu universel, il y a sans doute d'autres choses, donc avec lui le reste, on dit souvent que c'est un peu Noël tous les jours. Celui de Marine Le Pen, 144 propositions. Certes, aucune chiffrée. J'ai été regarder les programmes, je m'y suis intéressé, c'est assez étonnant, pas un chiffre. François Fillon, là, on est plutôt sur Carême, c'est un peu inaudible en ce moment, mais enfin, finalement, on a retenu les 500 000 suppressions de postes, plus les remboursements de sécurité sociale, c'est-à-dire à chaque fois, on retient que les choses négatives. Est-ce que, finalement, le fait que des programmes soient aussi des machines à claques, est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron n'avance pas sur un programme avec un catalogue de mesures ?
Alors, sur cette histoire de programme, nous, on a pris le parti dès le début, en marche, d'essayer de s'adresser à l'intelligence des gens et de ne pas réduire cette campagne présidentielle à une campagne de slogans qui tiendrait en 140 signes sur Twitter. Parce que ça fait 30 ans qu'on fait ça et 30 ans que c'est déceptif à l'arrivée pour les Français. Les exemples que vous venez de prendre sont parlants. Les 500 000 fonctionnaires de François Fillon, on ne sait pas où il les fait, il ne les fera pas. Le programme santé, il a changé déjà 3 fois. Alors, on nous annonce un nouveau programme santé la semaine prochaine. Donc, on espère que ce sera le dernier. Hein. Ce sera la 4e campagne engagée par François Fillon sur le sujet santé. Marine Le Pen, rien n'est chiffré. En gros, c'est entre 100 et 150 milliards de dépenses. Et elle nous propose une taxe à 3% sur les produits d'import qui rapporte 15 milliards. Il manque donc juste 135 milliards. Quant à Benoît Hamon, c'est 400 milliards de revenus universels. Puis finalement, c'est que 45 milliards. Ça devait être tout le monde. Puis c'est que les jeunes. Et puis c'est que les 18-25 ans. Bref, tout ça n'est pas très sérieux. Nous, on avance des propositions, on l'assume, on les égrène au fur et à mesure. Et depuis le 10 décembre, il en a égrené près d'une centaine déjà. Le 2 mars sera présenté de manière plus classique, plus traditionnelle. Vous aurez les différentes mesures dans les différentes grandes thématiques de la campagne. Mais il a déjà dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses sur le travail, sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture. Et on assume la méthode de dire les choses. Vous ne pouvez pas mettre dans l'atmosphère un sujet sans avoir avant installé le fond du sujet. Quand il fait ses propositions sur le travail, qui sont de nature, un, mieux rémunérer le travail, donc c'est l'idée du 13e mois pour les personnes au SMIC, comment en basculant les cotisations, en augmentant la prime d'activité, parallèlement de baisser le coût du travail, avec un transfert du CICE en totalité sur des baisses de charges jusqu'à 2,5 SMIC, et avec finalement pour une entreprise qui souhaiterait embaucher quelqu'un au SMIC, zéro charge générale. Si vous dites simplement ça, un matin à la radio sur RCJ, mais que vous n'avez pas installé avant l'idée que le travail est central dans la société française, que c'est ça qui permet la construction d'une identité personnelle, sociale, au sein et au cœur de la société française, et bien vous tombez à plat. Ça reste de la mesurette et les gens ne comprennent pas le sens de ce que vous dites. L'élection présidentielle, ça n'est pas un concours d'experts comptables. Et j'ai le plus grand respect pour les experts comptables. Mais c'est un moment où les candidats doivent dire où ils emmènent le pays. Quel est l'horizon ? Pourquoi on vit ensemble ? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Et si vous ne répondez pas à ces questions qui, finalement, est la question du sens, eh bien, vous perdez les Français, vous multipliez les mesures, vous faites, une fois au gouvernement, des réformes tous les 3 mois auxquelles ils ne comprennent plus rien, des choses d'ailleurs que vous n'aviez pas annoncées, mais parce qu'ils n'ont pas le sens, eh bien, la société française se cabre, se bloque et vous n'arrivez pas à la transformer.
Vous êtes sur RCJ, il est 12h43. Philippe Méché reçoit ce jeudi Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron.
Alors, on a bien compris, Benjamin Griveaux, en fait, ce que vous nous dites, c'est que, au fond, ce que le pays attend avant tout d'un président de la République, c'est une direction. Oui. Une direction centrale, quelques orientations et puis un ensemble de mesures qui va avec mais qui ne se décline qu'après. On va parler un peu international. Alors Emmanuel Macron est allé en Algérie, il compte sans doute visiter d'autres pays. Là il a été un peu attaqué ce matin, entre autres dans les médias, sur une phrase disant que la colonisation était un crime contre l'humanité. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette déclaration, nous en parler et ce qu'il entendait derrière ça ? Même si ça paraît clair quand c'est énoncé comme je viens de dénoncer.
Il entend une ligne très simple, qui est finalement résumable en une phrase. Ni repentance, ni refoulement. Il faut que la France, 60 ans après, arrive à tourner la page et à faire définitivement le deuil de cette période. Il est d'une génération, et je suis de cette génération, qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, puisque c'est en Algérie qu'il a prononcé cette phrase. Et il a appelé dans ce voyage et dans les rencontres qu'il a faites là-bas, notamment avec le Premier ministre et avec plusieurs membres du gouvernement, à la réconciliation des mémoires sur un sujet qui est évidemment très instrumentalisé dans la période, où François Fillon, quand il est à La Réunion il y a 4 jours, considère que la colonisation est une abomination et aujourd'hui rentré en France, change de pied, change d'avis et en fait une instrumentalisation politique. Il y a dans la colonisation des crimes qui ont été commis, et ça c'est historiquement établi, pour autant les pieds noirs, ceux qui vivaient en Algérie, les instituteurs, les médecins, les agriculteurs, pas question de dire que ces personnes ont été ont commis des crimes contre l'humanité, mais que en soi, quand un État, quand vous opprimez un peuple, quand il y a la domination d'un État sur un autre, eh bien oui, que ce soit des crimes de nature inhumaine, ne paraît pas quelque chose de totalement abracadabrantesque.
Quels sont les autres pays dans lesquels Emmanuel Macron compte se rendre d'ici l'élection présidentielle ?
Il ira vraisemblablement au Maroc au mois de mars, et puis probablement un ou deux déplacements en Europe.
Alors il est au centre aussi de l'actualité internationale, puisqu'on dit aussi qu'Emmanuel Macron est la cible particulière des Russes. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi indésirable aux yeux des Russes ?
Il est le seul à défendre l'idée d'une Europe puissante. Il est le seul à être définitivement pro-européen dans cette élection. Tous les autres candidats ont été des tenants du non au traité de 2005, ont toujours eu des doutes, et François Fillon le premier, dès Maastricht, et ne sont pas des Européens convaincus. Être un Européen convaincu, ça ne veut pas être un Européen béat. Mais on considère aujourd'hui, et ils considèrent que si nous sortons du cadre des traités, ce que propose Marine Le Pen, ou si nous amoindrissons la position européenne sur la scène internationale, eh bien la voix de l'Europe ne sera plus entendue et la France pèsera moins qu'elle ne pèse aujourd'hui sur la scène internationale. Le bon échelon, à la fois d'un point de vue commercial, le CETA a été adopté hier par le Parlement européen, pour négocier un bon accord commercial, si vous le négociez à 66 millions de Français, vous êtes moins puissant que si vous le négociez à 500 millions d'Européens avec un marché de 500 millions de consommateurs. Et donc c'est le même principe sur les questions internationales. Ce qui pose problème au Kremlin, c'est que évidemment Vladimir Poutine n'a pas du tout intérêt à voir une Europe puissante face à lui. Il est dans une stratégie ouverte d'hégémonie régionale. Et évidemment, le Brexit a été sa première excellente nouvelle. Et il ne rêve que d'une chose, c'est de voir des Européens sceptiques, pour ne pas dire des anti-Européens, arriver à la tête de l'État français.
Pour autant, on voit bien, et c'est aussi une demande de l'opinion, à ce que l'Europe change, l'Europe se réforme, l'Europe définisse un autre chemin. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition d'Hubert Védrine, qui est de dire l'Europe devrait faire une pause pendant 1 ou 2 ans et réfléchir justement à ce qu'elle veut devenir, en mettant entre parenthèses toute nouvelle directive, toute nouvelle mesure qui agace les Français. On est passé à côté de la taille des pommeaux de douche obligatoires, c'est pas tout à fait l'Europe dont on rêvait. On voit bien que là, il faut quand même changer quelque chose.
Il est évident que cette bureaucratie, et il a fait déjà des propositions sur la simplification des normes, pose une difficulté dans la perception que nos concitoyens ont de l'Union européenne et du travail que font le Parlement ou la Commission. Ça, c'est évident. Emmanuel Macron, il a proposé une chose, des conventions démocratiques dans tous les pays de l'Union.
Comment une convention démocratique ?
Convention démocratique, c'est ce qu'on appelle les conférences de consensus. Vous convoquez les citoyens, vous les mettez autour d'une table, vous faites des panels de citoyens et vous leur faites rédiger finalement un texte relativement simple. Il faut en finir des traités avec 350 articles que personne ne lit et tout le monde s'écharpe sur le micro-détail ou le codicille ou la note de bas de page. Il faut un texte simple d'une dizaine de pages qui redonne un peu de souffle et les grandes directions que l'Union européenne doit demain mettre en œuvre. Le soumettre au peuple, ceux qui ratifieront par voie référendaire, par voie parlementaire, peu importe, mais ceux qui sera ratifié, eh bien, participeront à peut-être pas 27 d'ailleurs, peut-être à 9, peut-être à 12, peut-être à 15, peut-être à 20 sur certaines politiques, mais il faut qu'on puisse avancer. À 27, la situation est bloquée, l'Union européenne ne produit plus que de la bureaucratie et c'est effectivement délétère pour l'image qu'elle a auprès de nos concitoyens.
Enfin, la France a une certaine responsabilité un petit peu aussi dans cet affaiblissement, ne serait-ce que par, sans les critiquer tous, voir le profil des députés qui sont envoyés au Parlement européen français, sont souvent ceux qui ont raté leurs élections en France et qui ont à l'autre consolation à Strasbourg.
C'est très juste. C'est très juste. Alors, il y a d'excellents eurodéputés. On a Sylvie Goulard, qui est un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, qui excelle sur les questions européennes. Mais c'est vrai que les élections européennes, c'est un peu l'air pêché du scrutin en France, qui n'ont pas réussi. C'est une vraie difficulté. Ils parlent souvent peu l'anglais. Alors, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible en France, mais malgré tout, quand les négociations se font en anglais et en français à Bruxelles, puisque le français est évidemment la langue de la diplomatie, mais malgré tout, prenez les parlementaires britanniques, pourquoi est-ce que Londres tire si bien les marrons du feu? Ils envoient leurs meilleurs parlementaires, les meilleurs espoirs des deux grands partis en Grande-Bretagne, eh bien, ils vont faire leur classe à Bruxelles. Nous, c'est exactement l'inverse, et l'affaiblissement de la position française est aussi lié, pas uniquement, mais aussi lié à une moindre préparation de nos parlementaires à leurs fonctions européennes. On voit aussi en termes de présence je pense en particulier à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs sont encore rémunérés par le Parlement européen pour faire une campagne présidentielle en France, c'est intéressant. Je ne crois pas qu'ils y siègent beaucoup en ce moment. Quand on voit leur taux de présence et leur niveau d'intervention, ils sont très présents en plénière où il y a les caméras, ils sont très absents en commission, là où se fait le travail.
Alors on va parler également un peu aujourd'hui du paysage politique, au-delà d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait, à votre avis, réunir une majorité à l'Assemblée nationale s'il était élu? Est-ce qu'il trouverait, aujourd'hui il y a eu des désignations de candidats au sein de En Marche, pour l'élection législative.
Alors le processus est en cours.
Alors j'ai lu ce matin un papier, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais peut-être en disant que c'était la foire avec ces désignations.
Alors, nous avons reçu plusieurs milliers de candidatures. Nous avons installé une commission nationale d'investiture qui est indépendante, qui est présidée par Jean-Paul Delevoye. Elle est constituée de 9 membres. Aucun des membres n'est candidat lui-même à l'élection, ce qui simplifie les choses. Et Emmanuel Macron n'est pas membre de cette commission. Nous avons des gens dans cette commission issus de la société civile, issus de l'ensemble du champ politique. Nous avons des gens de gauche, de droite, du centre. Et nous avons des gens issus de la société civile et donc du monde du privé. On reçoit des milliers de candidatures. Nous investirons 577 candidats dans l'ensemble des circonscriptions législatives françaises parce que la logique qui est derrière, c'est de donner à Emmanuel Macron président une majorité parlementaire claire et cohérente. C'est ce qu'il appelle le contrat avec la nation. C'est-à-dire que les parlementaires qui partiront avec les couleurs d'En Marche à l'élection législative auront avec eux les 5 ou les 10 grandes priorités du quinquennat sur lesquelles le président de la République engagera sa responsabilité politique. Et ces 5 à 10 grandes priorités ne seront pas discutables. Tout le reste pourra être discuté. Nous, on ne craint pas la confrontation. C'est pas un mandat impératif, mais vous ne pouvez pas multiplier les phénomènes de fronde. Benoît Hamon se prépare ses frondeurs de demain avec l'aide réformiste du Parti Socialiste. François Fillon, il les a déjà, ses frondeurs, et on le voit tous les jours avec les déclarations des uns et des autres. Vous ne pouvez pas gouverner ce pays dans la sérénité avec un modèle aussi friable et avec le fait d'avoir généré une fronde. Eh bien, dès avant même l'élection, on en a eu un exemple dans le quinquennat qui vient de s'écouler. La primaire de 2011 a généré les frondeurs du quinquennat.
Une toute dernière question, si je peux me permettre. François Bayrou, est-ce que vous pensez qu'un ralliement est possible?
Alors, François Bayrou, vous savez, c'est un homme libre. À nouveau, c'est à lui de dire les intentions qui sont les siennes. Il a publié un ouvrage, il s'exprime beaucoup. Il a dit qu'il se donnait jusqu'au 20 février pour dire ce qu'il ferait. François Bayrou est libre de sa parole et nous ne sollicitons personne en particulier. Nous accueillons les soutiens sincères qui n'ont jamais eu de propos orthogonaux par rapport à l'offre politique proposée par Emmanuel Macron.
Donc il nous reste 4 jours pour savoir. Merci beaucoup à vous, Benjamin Griveaux.
Merci. Et merci à vous, Philippe Méché. On vous retrouve évidemment jeudi prochain pour une nouvelle interview politique.